إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Nous en sommes arrivés au chapitre 14-15 dans certaines éditions du livre de l'unicité du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, à propos de la parole d'Allah: ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'un lahum nasra. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? La mention de ce chapitre après les chapitres précédents est un choix très judicieux de la part de l'auteur rahimahullah ta'ala. En effet, cela indique une profonde compréhension de la religion et une science étendue. Et cela indique la preuve concernant le fait d'attribuer l'unicité à Allah tabaraka wa ta'ala et son droit exclusif à l'adoration dans le cadre de sa divinité est bâti sur la croyance innée en son unicité de seigneurie. C'est-à-dire, quand on a su qu'Allah c'est le seul seigneur et maître et créateur, cela implique obligatoirement qu'on l'adore lui seul. C'est pour ça Allah Ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est-à-dire, une fois que vous avez reconnu qu'il est votre Seigneur, vous devez aussi reconnaître qu'il mérite seul l'adoration et personne en dehors de lui. Ainsi, la preuve concernant le droit exclusif d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à l'adoration seul, en dehors de tout autre, est une preuve innée, basée sur l'observation de la réalité et la raison. Ce chapitre contient donc la preuve que celui qui crée, octroie la subsistance et possède n'est autre qu'Allah seul. Quant aux autres, ils ne possèdent aucune part de la création, ils n'octroient rien de la subsistance et ils ne possèdent rien du commandement, de même qu'en réalité, ils ne possèdent rien du tout. Ceci concerne même la créature la plus élevée en noblesse, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au sujet duquel Allah Ta'ala a dit: Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Ce qui signifie: tu ne possèdes aucune part de cet ordre. Mais qui donc le possède alors, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? De plus, si Allah nie cette caractéristique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est encore plus vrai pour celui qui est de moindre rang que lui. Et ceux qui s'adressent aux occupants des tombes, aux pieux, aux saints et aux prophètes prétendent au fond d'eux-mêmes que ces personnes possèdent certains pouvoirs comme l'octroi de la subsistance ou bien le fait d'intercéder sans la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est faux. En réalité, ces êtres sont des créatures soumises à leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne créent rien du tout. En étant elles-mêmes créées, elles ne peuvent apporter à quiconque le secours, car elles-mêmes, elles nécessitent le secours. Elles ne peuvent pas se secourir même elles-mêmes. Elles n'ont aucune part du royaume. Et le Coran contient un grand nombre de preuves concernant le fait qu'Allah Ta'ala est le seul méritant l'adoration en dehors de tout autre. Parmi ces preuves, il y a le fait que les polythéistes reconnaissent la seigneurie d'Allah. Or, ce type de preuve indique que celui qui mérite l'adoration est celui dont ils ont reconnu la seigneurie. Il y a aussi les preuves stipulant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à ses messagers et à ses élus contre ses ennemis. On peut aussi mentionner comme preuve la faiblesse de la créature et le fait qu'elle soit venue au monde sans son consentement, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné vie. De même, cette créature quittera cette vie sans son propre consentement. Elle est donc dominée, et c'est sans l'ombre d'un doute que ce ne sont pas ces divinités qui l'ont dominée, rabaissée et réduite à cet état. C'est plutôt Allah tabaraka wa ta'ala seul. C'est lui seul qui fait vivre et donne la mort. Et ceci est une affirmation générale qui est connue de tous de façon innée. Donc si Allah, c'est lui seul qui donne la vie, qui donne la mort, qui régit tout, qui est le Seigneur et Maître de l'univers, qui octroie, qui crée et les créatures ne créent pas, qui donne secours et les créatures ne peuvent secourir et donner la victoire, elles ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qui donc, en dehors d'Allah, mérite l'adoration? On peut aussi citer comme preuve le fait qu'Allah ta'ala possède les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il est doté des qualificatifs parfait et magnifique. Il est caractérisé par la perfection absolue, exempte de tout défaut, quel qu'il soit, pour tous ses noms, tous ses qualificatifs et tous ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. On va voir en fait, dans ce chapitre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala annule le fait que quelqu'un parmi les habitants de la terre possède quelque chose de l'ordre divin, ou bien qu'il mérite d'être adoré, du fait qu'ils sont impuissants. Ils ne possèdent rien de l'ordre divin, même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes, se secourir ou secourir les autres. Et on va voir dans le chapitre qui vient juste après qu'Allah tabaraka wa ta'ala montre l'impuissance des habitants des cieux, les anges. Donc ce chapitre est là pour appuyer le fait que les habitants de la terre, c'est-à-dire tous les hommes, les djinns, ou bien même toutes les choses inertes qui sont adorées par les gens sur terre, ne possèdent rien. N'ont pas la capacité de créer, n'ont pas la capacité de gérer, n'ont pas la capacité de se secourir même eux-mêmes. Et le chapitre suivant va démontrer la même chose pour les habitants des cieux qui sont les anges. Donc, ces deux chapitres ensemble vont montrer l'impuissance de toutes les créatures et de ce fait qu'ils ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où Allah ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. C'est ici que se trouve l'argument, car ils ne possèdent même pas la pellicule qui englobe un noyau de date. Cette fibre-là, cette pellicule qui englobe le noyau de date, ils ne la possèdent pas. Partant de là, ils ne peuvent donc posséder quoi que ce soit de plus important. Et Allah Ta'ala dit, ce que vous invoquez en dehors de lui, ce pronom démonstratif englobe tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, qu'il s'agisse d'anges, de prophètes, de messagers, de personnes décédées, pieuses ou pas, de djinns, ainsi tout être invoqué en dehors d'Allah, qu'il soit doué de raison ou non, ne possède pas même la pellicule d'un noyau de date. Pourquoi donc l'invoquer? Il est donc obligatoire de s'adresser à celui qui possède tout l'univers et tout ce qu'il contient. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité des hadiths pour prouver ce qu'il a démontré dans le titre de ce chapitre. Dans le recueil de hadiths authentiques de Bukhari, Anas, radiallahu anhu, a dit, le jour de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à la tête et une de ses incisives fut cassée. Il dit alors, comment un peuple blessant son prophète peut-il réussir? Allah révéla alors, laysa laka min al-amri shay, tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Dans le même recueil, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, après s'être relevé de l'inclinaison dans la dernière unité de la prière du matin, « Oh Allah, maudit un tel et un tel », après avoir dit « Qu'Allah entende celui qui le loue, Seigneur à toi la louange ». Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allah révéla alors « Laysa laka min al-amri shay ». Tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Dans une autre version, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah contre Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. C'est alors qu'Allah révéla « Laysa laka min al-amri shay ». Tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. À travers tous ces hadiths, premièrement, on voit qu'ils indiquent qu'Allah nie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse posséder quoi que ce soit de son royaume. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cet enseignement et l'a expliqué. Et ceux qui sont de moindre rang que lui, sallallahu alayhi wa sallam, sont plus à même d'être concernés par cette négation. Ainsi, par voie de fait, cette part du royaume d'Allah ne peut appartenir ni aux anges, ni aux prophètes, ni aux pieux parmi les adeptes des messagers. Dès lors, toutes les orientations vers autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, deviennent caduques. Et il devient obligatoire de s'orienter vers Allah au moyen de l'adoration et ses catégories comme l'invocation, la demande de secours, de protection, le sacrifice, le vœu et tous les autres types d'orientation vers Allah, subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite d'être adoré en dehors de toutes les créatures. Ces deux hadiths qui sont cités, les savants ont divergé pour quel hadith ce verset a été révélé. Laysa laka min al-amri shay. Certains ont dit ce verset a été révélé une fois que ces deux situations sont passées. Et d'autres ont dit, en réalité, le verset a été révélé deux fois. Une fois pour la première situation et une autre fois pour la deuxième situation. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Il a dit, lorsque le verset وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis les gens de ta famille qui te sont les plus proches, quand ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva et dit, ô peuple de Quraysh, rachetez donc vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande ce que tu veux parmi mes richesses, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique clairement qu'il ne peut rien faire pour apporter un quelconque bienfait à ses proches, exception faite du message qu'Allah lui a remis et qui lui a été ordonné de transmettre fidèlement. Quant au fait de les secourir face à Allah tabaraka wa ta'ala, de leur épargner le châtiment, la punition et le supplice, ce pouvoir ne lui a pas été octroyé. Il n'a d'ailleurs été octroyé à personne une partie de son pouvoir ou de son royaume, subhanahu wa ta'ala. Il est donc, subhanahu wa ta'ala, l'unique dans son royaume, sa souveraineté, sa perfection, sa beauté et sa magnificence. Certains pourraient dire, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne va pas intercéder? La réponse est oui, certes oui. Et est-ce que les gens de sa famille, qu'il a cité dans ce hadith, parmi les croyants de sa famille, ne sont pas plus en droit et plus à même de mériter son intercession que d'autres? La réponse est certainement, bien sûr. Alors comment peut-on dire qu'il ne leur sera d'aucune utilité auprès d'Allah? Car ceux qui ont été cités dans le hadith sont tous des croyants. Al-Abbas, Safiya et Fatima sont morts sur la foi. Alors la réponse à cela est que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut s'opérer que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Alors, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié ici, dans le fait qu'il dit « je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah », c'est dans la décision finale, dans la destination finale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il intercède par la permission d'Allah. Mais après intercession, c'est Allah seul qui décide d'accepter cette intercession ou non, et de pardonner ou non, et d'entrer au paradis ou en enfer les gens pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura intercédé. Donc la décision finale appartient à Allah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a honoré, a voulu honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres parmi ses créatures qui intercéderont pour les honorer, et ils intercéderont selon la volonté, par la volonté, la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas sans sa permission. Donc cette intercession, on ne peut pas dire que c'est une manière d'intervenir dans la décision, mais c'est seulement un honneur qu'Allah ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à certains parmi ses serviteurs. Cela ne réfute en rien et ne rejette en rien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, du fait qu'il ne leur sera d'aucune utilité auprès d'Allah, c'est-à-dire dans la décision finale. Les points à retenir. 1. L'explication des deux versets. 2. L'histoire de la bataille de Uhud. 3. L'invocation dite du Qunut, du maître des envoyés, derrière lequel les maîtres élus, c'est-à-dire les compagnons, prononçaient le ta'min, disaient Amin. 4. L'invocation était dirigée contre des mécréants. 5. Ces derniers ont fait des choses que la majorité des mécréants n'avaient jamais fait. Ils ont blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête, ont déployé tous leurs efforts pour le tuer et ont mutilé les musulmans tombés au combat malgré le lien étroit de parenté qui les liait. 6. À ce sujet, Allah a révélé « Laysa laka min al-amri shay ». Tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. La parole d'Allah, ou yatouba alayhim, ou yu'adhibahum, ça c'est la suite du verset que l'on n'a pas récité. Car qu'il, Allah, accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie. À propos de Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham, or il a accepté leur repentir et ils sont devenus croyants. Donc subhanallah, c'est Quraysh qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, ils ont blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait faire tout pour le tuer, mais Allah Ta'ala lui a dit « Laysa laka min al-amri shay ». Tu ne possèdes rien au Mohammed de l'ordre divin. Et effectivement, Allah a voulu les guider et ils sont devenus des bons musulmans et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve qu'il n'est pas permis de dire qu'une personne est perdue, qu'une personne n'entrera jamais en islam ou qu'une personne est vouée à l'enfer. Celui qui dit cela, c'est lui qui risque d'être voué à l'enfer à cause de cette parole. 8. L'invocation du recueillement profond, al-qunut, lors des événements importants. 9. Ceux contre qui l'invocation était dirigée ont été cités par leur nom et par ceux de leurs parents. 10. Maudire une personne en particulier durant l'invocation du qunut. 11. L'événement vécu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation du verset « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » et avertis les gens de ta famille qui te sont les plus proches. 12. La ténacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de la prédication au point où il fut traité de fou. Il en est de même aujourd'hui pour un musulman qui agirait de la même façon. 13. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses proches et moins proches, je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Et dit même à sa propre fille, ô Fatima, fille de Mohammed, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître des envoyés, affirme qu'il ne peut être d'aucun secours envers la souveraine des femmes de l'univers, c'est-à-dire sa fille. Ainsi, sachant que ses paroles ne sont que vérité, et si l'on observe dans quel état se trouve l'élite de la communauté de nos jours, le tawhid et l'isolement dans lequel est réduite la religion apparaissent alors. Le prochain chapitre, chapitre 15, 16 dans certaines éditions, à propos de la parole « Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu mada qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir » Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Dans le recueil de hadith authentique, c'est-à-dire le Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Lorsqu'Allah décrète un ordre au ciel, les anges battent des ailes par soumission à sa parole. Ils sont alors effrayés par le son de cette parole, comparable à l'effraiement que provoque le son du choc d'une chaîne de métal sur un rocher. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille. Or, ces espions sont juchés les uns sur les autres. Soufiane illustra cela en écartant les doigts de sa main inclinée. Et celui qui a entendu la parole la transmet à ceux qui sont au-dessus de lui, et ainsi de suite de proche en proche, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sorcier ou le devin. Mais il est possible que cet espion soit touché par un météorite avant de transmettre la parole, comme il se peut qu'il la transmette avant d'être atteint. Le djinn rajoute alors sans mensonge à cette information, et les gens de dire, ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour? Mais il sera considéré véridique en raison de cette parole qui a été entendu des cieux. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah le Très-Haut désire révéler quelque chose, il énonce la révélation et les cieux en tremblent, à moins qu'il ait dit, ou s'ébranle fortement, par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque les occupants des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent en prosternation devant Allah. Le premier à relever la tête est Jibril, à qui Allah révèle ce qu'il veut. Puis les anges de chaque ciel, voyant Jibril passer près d'eux, lui demandent, qu'a dit notre Seigneur au Jibril? Il répond alors, il a dit la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Et tous les anges de répéter les mêmes propos que Jibril, ce dernier transmet alors la révélation là où Allah lui a ordonné de le faire. Ce chapitre, comme on l'a dit précédemment, il vient prouver que les habitants des cieux sont tout autant impuissants que les habitants de la terre. Donc, s'ils sont tout autant impuissants que les habitants de la terre, alors ils ne méritent pas l'adoration tout autant que les habitants de la terre, ou que les djinns, ou que les pieux, ou que les statues, ou que les arbres ne méritent l'adoration. Car le seul à mériter l'adoration est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'objectif de ce chapitre en réalité. Car les anges ont de profondes et importantes connaissances au sujet d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, parmi ces connaissances, il y a le fait qu'ils savent qu'il est, subhanahu wa ta'ala, al-Jabbar. C'est lui le magnifique, le possesseur du royaume. C'est pourquoi leur frayeur s'accroît à son égard, car ils ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il y a aussi dans ces versets et dans ce chapitre les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala de magnificence et de beauté. Les points à retenir, premièrement l'explication du verset. Deuxièmement, ce qu'elle comporte comme annulation du polythéisme et en particulier pour ceux qui s'attachent aux personnes pieuses. C'est d'ailleurs ce verset dont on dit qu'il déracine le polythéisme ancré dans le cœur. Troisièmement, l'explication de la parole d'Allah. Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Quatrièmement, la raison de la formulation de cette question de la part des anges. Cinquièmement, Jibril leur répond en disant, il a dit telle et telle chose. Sixièmement, le premier à relever la tête est Jibril, alayhi salam. Septièmement, il répond à tous les occupants des cieux, car ils lui ont tous posé la question. Huitièmement, le foudroiement touche tous les occupants des cieux. Neuvièmement, le tremblement des cieux en raison de la parole d'Allah. Dixièmement, c'est Jibril qui transmet la révélation là où Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de le faire. Onzièmement, le vol d'informations par les démons. Effectivement, certains pourraient se dire comment les astrologues, les devins, les sorciers disent certaines choses qui se passent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé ici dans ce hadith la manière dont cela se passe. Un shaytan, un démon, il monte les uns sur les autres. Et dans le hadith, il est décrit que Soufiane, il a montré avec sa main penchée sur le côté. C'est-à-dire, il monte vers le ciel, mais il ne monte pas d'une manière rectiligne. Il monte d'une manière penchée. Et il a écarté ses doigts comme si c'était des escaliers, c'est-à-dire qui montent les uns sur les autres d'une manière penchée. Et certains savants ont dit que cela montre que le fait qu'il monte comme ça d'une manière penchée, que le faux il est toujours penchant et il n'est pas rectiligne. Même dans les signes de main, il y a, alhamdulillah, des sens à retirer pour ceux qui réfléchissent et méditent. Donc, voilà la manière dont cela se passe. Les démons volent certaines informations de ce qu'Allah a décidé qui allait se passer sur terre, dont il a informé Jibril alayhi salam, et Jibril alayhi salam informe les anges. Et quand ils volent ces informations-là, ils sont pourchassés par des météorites. Certains les touchent, certains ne les touchent que après qu'ils aient parlé dans l'oreille du sorcier. Ce sorcier-là, il n'a pas eu le service des djinns gratuitement. Il a dû payer, et il n'a pas payé quelque chose qui n'a pas de valeur. Il a vendu le paradis éternel et il a acheté l'enfer éternel. Car celui qui a accepté de s'adonner à la sorcellerie a en fait accepté la mécréance et l'enfer éternel et d'être un adorateur de Shaitan. Mais subhanallah, et on va le voir dans la suite des points, douzièmement, l'illustration de la juxtaposition des démons les uns sur les autres. Treizièmement, l'envoi des météorites. Quatorzièmement, l'espion est parfois atteint par un météorite avant de transmettre la parole et la transmet parfois à l'oreille de son maître parmi les humains avant que le météorite ne l'atteigne. Quinzièmement, le devin peut être véridique parfois. Oui, c'est-à-dire il dit une vérité et sans mensonge, comme le shaitan lui a donné une vérité et sans mensonge. Seizièmement, il ajoute 100 mensonges à cette vérité. Donc que ce soit le djinn ou que ce soit le devin, car ils sont tous des grands menteurs. Le shaitan est un grand menteur et les devins et les sorciers sont des grands menteurs. Dix-septièmement, les gens n'accordent crédit à ses propos qu'en raison de la parole qui lui est parvenue du ciel. Subhanallah, les gens, comment ils sont faibles. S'il a dit 100 mensonges une vérité, ils ne retiennent que cette vérité-là et ils oublient les 100 mensonges et toutes les choses qu'il a dites qui ne se sont pas passées comme il les a dites. Dix-huitièmement, la prédisposition des esprits à accepter le faux, subhanallah. En effet, comment peuvent-ils s'attacher à une parole vraie en mettant de côté les 100 autres mensonges? Dix-neuvièmement, la transmission de cette parole de proche en proche, ils l'apprennent et l'utilisent comme argument. Vingtièmement, l'affirmation des attributs divins, contrairement aux ash'arites négateurs. C'est-à-dire que dans ce hadith, on voit qu'Allah parle. Vingt-et-unièmement, la déclaration concernant le fait que le tremblement et le foudroiement sont dus à la crainte d'Allah. Vingt-deuxièmement, les occupants des cieux tombent en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.